Emmanuel Mounier, Qu'est-ce que le personnalisme? Chapitre 1 Le personnalisme de la pureté. Le mouvement personnaliste est né de la crise qui s'ouvrit en 1929 avec les crashs de Wall Street et qui se poursuit sous nos yeux au-delà du paroxysme de la Seconde Guerre mondiale. Il s'est exprimé par la création de la revue Esprit en 1932. Pendant quelques années, l'ordre nouveau auquel Arnaud Dandieu, s'il eût vécu, eût donné une importance de premier plan, réunit de son côté, avec des personnalistes, des ingénieurs que la technocratie n'a pas toujours menés depuis dans les meilleurs chemins. De quelle nécessité intérieure notre affirmation est-elle sortie? Devant la crise, dont beaucoup se cachait la gravité, deux explications se présentaient. Les marxistes disaient « crise économique classique, crise de structure ». Opérer l'économie, le malade s'en remettra. Les moralistes opposaient « crise de l'homme ». Crise des mœurs, crise des valeurs, changer l'homme et les sociétés guériront. Nous n'étions satisfaits ni des uns ni des autres. Spiritualistes et matérialistes nous semblaient participer de la même erreur moderne, celle qui, à la suite d'un cartésianisme douteux, sépare arbitrairement le corps et l'âme, la pensée et l'action, l'homo faber et l'homo sapiens. Nous affirmions pour nous, la crise est à la fois une crise économique et une crise spirituelle, une crise des structures et une crise de l'homme. Nous ne reprenions pas seulement la parole de Peggy, la révolution sera morale ou ne sera pas. Nous précisions, la révolution morale sera économique, ou ne sera pas. La révolution économique sera morale ou ne sera rien. Nous nous tournions donc vers les marxistes et leur disions « Si subtil soit votre matérialisme, si dialectique et si éloigné du matérialisme vulgaire dont vous vous défendez, tant qu'il reste un matérialisme, ce que vous affirmez, il mutile l'homme et compromet la révolution. Soit, mais qu'est-ce que le matérialisme? Une doctrine qui affirme la primauté de la matière sur l'esprit? Phrase inintelligible, car plus personne ne sait ce que c'est que la matière qui fuit sous le doigt et même sous la pensée. Quant à nous, à aucun titre nous ne reconnaissons un esprit impersonnel. Nous n'appellerons pas plus matérialisme une philosophie historique qui soutient la primauté actuelle des solutions économiques et l'importance massive des facteurs économico-structurels dans une société moderne. Car nous croyons aussi à cette primauté d'urgence et à cette importance actuellement démesurée. Nous désignons comme matérialiste une philosophie qui, tout en insistant justement sur un humanisme du travail et de la fonction fabricatrice, considère comme illusoire d'autres dimensions non moins essentielles de l'homme, notamment l'intériorité et la transcendance. Et, comme semi-matérialiste, une philosophie qui tend à dévaloriser les secondes par rapport aux premières. En cela, le marxisme, du moins jusqu'ici, et nous réservons son avenir, n'a jamais nié être un matérialisme. Nous nous tournions en même temps vers les spiritualistes traditionnels et leur disions « Vous avez laissé confondre le destin de l'homme avec des bavardages de l'esprit sur l'esprit et détourné la force même de l'esprit vers les paradis artificiels au service de toutes les basses œuvres. » vous n'en avez rien vu, c'est bien ce qui vous condamne. C'est par vos soins que les forces révolutionnaires se sont tournées, à travers votre esprit, contre les valeurs de l'esprit. Et si tout de même les libère un jour, les malentendus et les ravages intermédiaires vous seront largement imputables. Nous avons commencé par rompre toute solidarité avec cet esprit, esclave ou aveugle. Nous sentions l'abîme qui sépare la bonne parole des bonnes paroles, et que nous ne pourrions annoncer à peu près sans pharisaïsme les voies de l'esprit que lorsque tous tiendraient de leurs conditions d'existence assez de loisirs et de disponibilité intérieure pour s'y engager. Notre conviction, dès lors, était faite. Le premier pas de la révolution spirituelle, c'est la révolution économique et politique qui lui fraye un chemin jusqu'à ses destins trop offusqués encore par les soucis élémentaires de la défense vitale pour aller jusqu'à elle. Toutefois, nous ne nous imposions pas pour autant, comme certains le voudraient, une sorte d'abstinence vertueuse pour tout ce qui dépasse les préoccupations de l'ingénieur politique. Cette sagesse étroite est une autre forme du pharisaïsme. Un grand nombre de militants révolutionnaires, s'ils travaillent pour les opprimés, ne le sont pas eux-mêmes à un point tel qu'ils puissent, sans responsabilité, laisser le destin spirituel de l'homme libéré aller au hasard des choses, quand ils prennent tant de soin à assurer les chemins de la révolution politique et sociale. Ils sont en condition de former et de rayonner mieux que d'autres une pleine image de l'homme. Les plus déshérités leur en donneront parfois l'exemple. La révolution matérielle d'abord, tout comme la révolution morale d'abord, peut couvrir une fuite individuelle devant l'exigence globale d'une révolution de l'homme total. Nul n'est tenu à se pendre pour éviter de s'asphyxier. Il est difficile à l'historien, même à l'historien de sa propre histoire, d'être assuré qu'il ne projette pas les perspectives postérieures des faits sur leur premier dessein. Je crois cependant que telle fut à peu près notre position de départ. Sa force même contenait un danger. Nous étions animés alors par un besoin d'absolu et par une révolte contre les désordres spirituels plutôt que par le souci puissant d'une politique à suivre contre le cheminement concret de ces désordres et leurs ruses de combat. Dans cet esprit, une certaine préoccupation de la pureté tendait à être le sentiment directeur de notre attitude. Pureté des valeurs, pureté des moyens. Notre formation d'intellectuel nous inclinait à chercher cette purification d'abord dans une purification de concepts, et l'individualisme de l'époque contre lequel nous nous inscrivions ne laissait pas de nous marquer en nous tournant de cette révision doctrinale vers le souci trop exclusif de nos comportements individuels. On connaît les procès que nous avons menés de ce chef. La critique de l'organisme historique où nous vivions nous a conduits à des positions révolutionnaires contre l'appareil capitaliste, la démocratie formelle et les institutions annexes. Il était alors, vers 1932, original d'être révolutionnaire sans appartenir à un pays marxiste. Depuis, cette originalité est devenue banalité et pas toujours de bon aloi. Notre volonté révolutionnaire était cependant profonde et authentique, mais elle était moins orientée vers les moyens de la révolution que vers la purification de la révolution même. Nous cherchions une technique des moyens spirituels. Et si technique marquait l'aspect réaliste de ce souci, nous aurions dit peut-être alors que mieux vaut ne pas faire la révolution que la laisser faire avec certains moyens. Aussi bien, notre premier travail fut-il surtout d'épurer les valeurs. Nous avions aperçu que la compromission n'était pas entre des valeurs spirituelles intactes et une réalité corruptrice dont il eût suffi de les détacher, mais qu'elle entraînait des valeurs déjà altérées par les amalgames qu'elles avaient formés dans l'ambiance. Nous nous sommes longuement attachés à ce délicat travail de dissociation, rupture entre l'ordre chrétien et le désordre établi, révision de nos sources de culture, des doctrines du travail, de la propriété, de l'autorité, etc. C'est l'époque des grands numéros spéciaux d'esprit, un peu lourds, mais durables. Certains considèrent ce souci de pureté révolutionnaire comme une sorte de sentiment infantile. Ils ont raison contre les formes primitives et obsédantes qu'en offrent les milieux anarchistes ou contre les produits d'une certaine éducation chrétienne platonisante qui viole l'esprit même du christianisme. Mais pour avoir, depuis, mieux assimilé la valeur spirituelle, elle aussi, d'efficacité, nous ne renierons pas pour autant ce souci d'absolu qui reste la colonne maîtresse de notre action. Si l'histoire même de l'homme est un mouvement pour aller toujours plus loin, l'histoire ne se fait pas et ne s'entend pas sans un principe d'insatisfaction permanente et de rebondissement perpétuel. L'erreur est de vouloir réaliser l'absolu dans le relatif. Elle n'est jamais de penser le relatif sur fond d'absolu, afin de lui maintenir une grandeur que, laissée à lui-même, il cède infailliblement. L'histoire n'est pas une relativité à chaque instant naissante, à chaque instant défaite, mais le visage toujours nouveau, toujours fidèle d'un absolu, qui, en même temps, éclaire de haut le fleuve d'Héraclite et mêle sa lumière à ses eaux glissantes. Toutefois, cet absolu, et nous rejoignons ici la grande tradition qui relie Denis l'Aréopagite à Saint Jean de la Croix, à Pascal, à Kierkegaard et à Kafka, est un absolu caché. Il est incommensurable au monde tel qu'il va. Nous l'attirons à nous par l'effort que nous faisons vers lui, plus que par les représentations que nous nous en donnons, toujours défaillantes, parfois grotesques. Un système conceptuel peut cerner avec précision ce qu'il n'est pas. Il n'atteint que médiocrement ce qu'il est. Ce qui est vrai sur le plan de l'ontologie est plus vrai encore quand nous glissons au plan de l'histoire. Comme disait Kierkegaard, seul le jugement dernier juge l'histoire, ce qu'en termes moins théologiques on peut exprimer en disant que seule une conscience de la totalité achevée de l'histoire pourrait donner le sens de chacun des événements de l'histoire. L'histoire ne se fait pas sans la volonté de l'homme, et cependant, elle se fait en grande partie hors d'elle et contre elle. Elle en tire d'autres effets que ceux qu'il avait lui-même prévus. En matière historique, le service de l'absolu est une manière d'être, plus qu'un système né variéture, de principes ou de solutions. Dans cette quasi-inintelligibilité verticale de l'histoire, nous ne pouvons guider notre barque sur un ciel des fixes. Les pays favorables ou hostiles que nous traversons nous sont bien plutôt révélés en même temps que par des constellations lentement mobiles, par la luminosité de l'air, par le jeu des vents, par les reflets de l'eau, par un bien-être ou un malaise de la vie en nous. Il faudrait ici analyser plus longuement que nous ne pouvons le faire le souci de pureté. La psychologie et la pathologie individuelle nous apporteraient des clartés. Le délire de pureté absolue, la manie de la perfection, l'idéalisme éperdu sont fréquents dans les asiles et chez les simples névrosés. Ils ne marquent pas des sujets d'élite, mais des psychismes en dégénérescence. Ils ne déportent pas la personnalité, comme le pensent ceux qu'ils agitent, vers une perfection pleine, mais vers une véritable perdition. On les rencontre chez des sujets dont le comportement directeur est une fuite de la réalité. Tout ce qu'ils pourraient réaliser de nécessairement humble, imparfait, fini, ils le refusent, et sur le pivot de cette négation, ils passent du refus à la condamnation, qui les justifie de leur fuite à leurs propres yeux. Enfin, sommant ces évasions dans le mythe d'une pureté abstraite, ils finissent, en l'idéalisant, de se masquer leur désertion. Toutes les sectes de purs, comme en a tant connu l'histoire, sont nées de cet état d'esprit chez des impuissants de l'action quotidienne. Nous le trouvons très répandu chez des hommes qui passent pour normaux, que cette pureté dont ils se couvrent soit de haute ou de basse qualité, une aspiration religieuse inconsolable ou la minutie impeccable d'une vie bien ordonnée. Les directeurs de conscience, un saint François de Sales par exemple, ont prévenu Marx et les Freudiens en dénonçant dans ses attitudes une aliénation et une ruse de la mauvaise conscience. Ramenons ces réflexions à notre propos. Le sentiment obsessif de pureté en matière de théorie et d'action n'est pas toujours étranger à ces aberrations psychologiques. Tantôt, il est développé par une éducation chrétienne dirigée à contresens vers le scrupule et l'évasion, au lieu de l'être vers la décision et l'engagement. Tantôt, il suit quelques blessures affectives profondes reçues dans les premières escarmouches de l'action et simule un progrès dialectique quand il signe une fuite. On en rencontre des formes laïques aussi bien que des formes religieuses. C'est la grande tentation du souci authentique d'absolu et de l'effort vivant vers la perfection que de glisser à cette sorte de dogmatisme stérile. Je ne pense pas que nous y soyons tombés. Un organisme naissant tente à s'isoler et à se protéger pour prendre pleine conscience de soi et sauvegarder sa fragilité première. Ainsi avons-nous fait à 25 ans, comme il était normal et sain, niant tout, exigeant tout. Mais le personnalisme que nous affirmions et que nous dégagions peu à peu était le meilleur exorcisme contre le démon de la pureté. La pureté abstraite va toujours au général, au principe construit, à la situation rêvée, à ses biens sans corps qui ne sont rien ni à personne. La démarche personnelle, au contraire, est affirmation et insertion concrète, responsabilité assumée dans un monde de situations. À rester trop exclusivement incliné par cette préoccupation, nous frôlions cependant certains dangers. Le premier de tous était de glisser vers l'utopie et par suite vers l'inefficacité historique. Il n'y a pas seulement utopie des systèmes farfelus et des sociétés irréelles. Il y a utopie dès que la projection historique qui éclaire l'action, est le produit d'une construction purement conceptuelle. Au lieu de composer les exigences suprahistoriques avec les situations historiques de fait où elles ont à s'insérer. En ce sens, il y a même des utopies de la modération. On les trouve dans ces politiques de juste milieu qui naissent d'une détermination presque géométrique entre des extrémismes imaginaires. La recherche d'une révolution pure, par voie de nettoyage idéologique, pouvait, aussi bien qu'un certain moralisme politique, nous mener à l'impasse des bonnes intentions des armées. C'est un tel souci de pureté qu'il faut rapporter l'apolitisme infantile de beaucoup d'hommes de qualité certaine et leur maladresse absolue quand ils veulent en sortir pour s'insérer dans le réel. Au surplus, le souci de pureté n'est pas seulement le souci d'une certaine netteté abstraite des essences ou d'une perfection idéale de l'histoire, mais le souci d'une certaine délicatesse d'attitude devant le monde et dans l'action. Encore une fois, ce souci est une composante essentielle de l'action. Mais il n'en reste une composante virile que combiné au souci d'application et d'efficacité. Sinon, il crée des cœurs d'un métal peut-être chimiquement pur, mais fragile. L'homme composé, par définition, n'est solide qu'en alliage. Vichy, à côté des cyniques, fourmillait de ces purs qui se sont laissés posséder comme des enfants et qui ont révélé une faiblesse foncière du caractère au moment des choix décisifs. Il faut ajouter que dans l'atmosphère de notre époque, le souci de pureté est pris, qu'on le veuille ou non, dans un contexte assez étroitement individualiste. Ici encore, il faut être attentif aux indications de la psychologie individuelle. Le souci de la pureté n'est souvent qu'une projection dans l'ambiance du souci de ma pureté. Et ce souci de ma pureté individuelle, s'il tient parfois dans ses formes impérieuses, dans l'élan vers le parfait de deux instincts primitifs, le souci de mon intégrité matérielle, variante de l'instinct de la conservation, que rien de moi ne s'altère, c'est-à-dire que rien ne change, qu'aucune aventure ne me déconcerte, et le complexe d'innocence symétrique trop méconnu du complexe de culpabilité, le désir d'être sans reproche, au moins de frais possible. Ces deux instincts sont conservateurs et égocentriques. Sous de nobles prétextes, ils visent surtout à assurer la tranquillité morale de l'individu dans l'oubli des désordres ou des tumultes qui s'agitent autour de lui. On comprend que leur attitude de juge intègre, sans risque et sans charge, soit suprêmement irritante pour ceux qui s'engagent là où l'on reçoit des coups, où l'on se tache les mains et où l'on gagne les batailles. Enfin, une réflexion animée du seul souci de purifier tend à développer autour d'elle une sorte de désintégration maligne. Nous l'avons compris par quelques malentendus nés de nos propres critiques. En un premier temps, nous disions non à toutes les valeurs acquises, telles qu'elles se présentaient dans l'abominable confusion du temps, y compris les valeurs dites spirituelles. Ne les avait-on pas vues défiler depuis quelques années en chemise de couleur et colonne par trois? Ordre, autorité, nation, travail, famille, patrie, succédant aux libertés, égalité, fraternité du double jeu capitaliste-parlementaire. Envers ces amalgames, la rigueur de notre refus ne s'est pas détendue. Mais à ne dire que non, à toujours dissocier, toujours décompté. Nous avons vu certains esprits de notre suite glisser sur une sorte d'anarchisme intellectuel qui rejoignait par un biais l'armée des désordres du temps. Encouragé ici et là par un transcendantalisme sommaire, religieux ou laïque, que les maîtres dont il se réclame, Barthes ou Blois, Kafka ou Proudhon, eussent désavoué, il ne savait plus être que refus. Toute amorce historique, toute actualité, toute modernité leur paraîtrait entachée du péché originel d'attester au lieu de protester. Les meilleurs ont augmenté la petite cohorte de ces prophètes du politique dont la fonction est indiscutablement nécessaire, bien que par certains aspects stériles et même nocives. Les autres, le plus grand nombre, ne sont que des facteurs de dissolution critique. Ils emploient les meilleures intentions à corroder toute action efficace et à défaire leurs propres engagements.